Bonjour Stanislas.
Bonjour Arnaud.
On a introduit avec Windows Server 2012 une fonctionnalité qui s'appelle Hyper-V Replica. Tu peux peut-être nous en rappeler quelques mots et puis nous dire à quel point ça a évolué dans 2012 R2.
Alors, Hyper-V Replica, en fait, pour moi d'ailleurs une des plus belles fonctionnalités qu'on ait pu mettre nativement dans l'hyperviseur de 2012. En fait, l'idée c'est de vous aider techniquement à monter en gros un PRA, un plan de reprise d'activité, c'est-à-dire en gros le plan de dernier recours quand vous avez un problème grave dans un data center. Incendie, destruction de bâtiments, inondation, etc. Donc en gros, quand c'est vraiment la catastrophe et qu'il faut pouvoir redémarrer un environnement de production, certes probablement détérioré, mais toujours fonctionnel pour vos utilisateurs dans un autre espace, entre guillemets, que ce data center qui a été sinistré. Donc le premier scénario d'usage de Hyper-V Replica, c'est de répliquer en gros des machines virtuelles entre deux centres de données. Donc vous avez vos hyperviseurs de production dans le data center principal, et vous avez un ou plusieurs autres serveurs Hyper-V qui sont démarrés et prêts à démarrer eux-mêmes des machines réplica en cas de problème. Donc le principe est simple, hein, prendre des machines virtuelles de l'environnement de production et donc créer des clones en fait sur l'environnement de secondaire de secours. Donc ça c'est le premier scénario. On va dire pour les entreprises qui ont au moins deux bâtiments physiquement séparés. Voilà, la classique. Ensuite, il reste tout le cas où les petites et moyennes structures n'ont pas forcément les moyens d'avoir deux salles machines séparées, deux bâtiments séparés, etc. Dans ce cas-là, on peut également imaginer des scénarios comme celui-ci, où en fait on va avoir un fournisseur ou un hébergeur qui va proposer à ses clients ce service, c'est-à-dire ce service de récupérer et de stocker les machines virtuelles de type réplica dans son data center à lui, et puis de servir également de son data center comme data center de secours le jour où il y a un problème et que l'entreprise doit passer dans un mode de type plan d'entreprise d'activité. Donc là, on est vraiment la réplication entre une petite structure et puis un hébergeur ou un fournisseur de cloud. Donc, dans 2012, R2, la première chose qu'on a fait, parce qu'on écoutait vos retours d'expérience et vos feedbacks, c'était de pouvoir modifier cette réplication, ce temps de réplication. Dans Windows Server 2012, le delta entre la production et le réplica est de 5 minutes. Il n'est pas de 1 minute, ni de 10 minutes, ni de 24 heures, il est de 5 minutes. C'est un temps qui était fixe. Donc en gros, avec du Windows Server 2012, on est capable de redémarrer une production à T-5 minutes. Donc potentiellement, quand il y aura un incident majeur, on aura 5 minutes de perte de données. Basiquement, c'est ça.
Alors ça ne correspondait pas à tous les besoins de nos clients.
Oui, alors certains nous ont dit, nous, vous savez, il y a du WAN, on préférerait avoir 24 heures de délai entre le répliqué et l'original, ça nous irait parfaitement.
Alors 24 heures.
Bah, ça tombe bien, parce qu'en fait, on a une autre technologie qui permet de faire ça, qu'on appelle basiquement une sauvegarde.
Ah oui, un backup, c'est pas mal. Ouais.
Et inversement, on a eu d'autres clients qui nous ont dit 5 minutes c'est bien, mais dans mon environnement qui est assez tendu, entre guillemets, en flux tendu plutôt, on aurait besoin plutôt de tendre vers les 10 secondes, voire la seconde, pour pouvoir avoir quasiment aucun delta entre l'original et le réplica.
Hier ça, on avait déjà une fonctionnalité dans Windows qui permettait de faire ça depuis NT, c'est ça je crois?
Depuis NT4 Wolfpack, en fait ça s'appelle un cluster.
Ouais.
Basiquement, tout ça pour dire que la donnée temporelle qui était de 5 minutes dans Windows Server 2012 était une donnée fixe et que c'était volontairement de cette taille-là parce qu'on avait estimé que c'était la meilleure option. Néanmoins, certains clients nous ont dit, à juste titre, 5 minutes c'est quand même beaucoup, si je fais mon réplica sur un serveur qui est à côté, sur du LAN, je pourrais le faire en moins de temps. Et d'autres nous ont dit, ouais, ok, 24 heures, ok, on sait que c'est beaucoup, mais 5 minutes, c'est assez court par rapport à notre WAN. 15, ce serait, nous, c'est acceptable dans notre PRA d'avoir une perte de 15 minutes de données et de repartir sur une production à T-15.
Ouais.
Donc du coup, bah, désormais, on a trois options pour le temps, le delta, entre guillemets, entre l'original et le réplica. 30 secondes pour ceux qui ont eu un LAN assez rapide.
Ouais.
5 minutes, on reprend les bases de 2012. 15 minutes pour ceux qui ont un WAN un peu plus court et qui n'ont pas besoin d'avoir un T-5 minutes.
Parfait. Alors ça c'est bien, il y a certains clients qui nous ont dit on a nos hyperviseurs et nous notre principe général dans le monde de l'informatique c'est d'appliquer le mode ceinture et bretelles.
Donc effectivement dans 2012 on a le mode ceinture, c'est-à-dire qu'on a la machine d'origine, la VM d'origine. On a son réplica qui est séparé. Mm-hmm. Et ben le mode ceinture et bretelle consiste en fait à faire un réplica du réplica.
Un troisième saut.
Donc désormais, on appelle ça la réplication étendue. Mm-hmm. Et effectivement, on va pouvoir créer, depuis la VM d'origine qui est hébergée sur le site de production, on va dire le site A ici, on va pouvoir créer un réplica sur le site B, voire un réplica du réplica sur le site C. Là, logiquement, les maths aidant, il y a assez peu de chances de perdre sa production avec ce type de mécanisme. D'où le ceinture et bretelle. Dernier point, comme d'autres choses qu'on a fait dans Hyper-V pour Linux, on a également un meilleur support de Linux dans la partie Hyper-V Replica. Notamment, on va réutiliser les mécaniques qui sont équivalentes au VSS Snapshot de Windows, et dans quelques cas de faire en fait des clichés applicatifs à l'état, incluant la partie applicative de Linux, avec des machines en cours d'exécution également sur la partie en fait Hyper-V Replica.
Impressionnant. Alors, quels sont les scénarios pour cette réplication étendue dont on discutait? Donc, c'est relativement simple. Hein. C'est typiquement un premier hôte, un premier hyperviseur sur ton site central, un deuxième hôte qui réplique la machine virtuelle sur le même site. Et puis ensuite, on peut se dire, je renvoie ça vers mon data center de fournisseur tiers. Deuxième option. J'ai un data center principal sur lequel j'ai mon hyperviseur, ma VM qui tourne. J'ai un data center secondaire. Je mets ma machine virtuelle sur ce réplica dans un secondaire. Et puis, j'envoie ensuite vers un fournisseur tiers en troisième saut. Et puis enfin, un autre sur site. Et puis ensuite, une réplication vers un fournisseur externe. Et puis, de cet fournisseur externe, je vais en rajouter un autre externe pour repartir vers un autre fournisseur dans un cadre où je voudrais m'assurer que potentiellement l'ensemble de ces prestataires auraient je voudrais m'assurer en fait de plus de redondance à travers l'utilisation de ces différents prestataires.
Le dernier cas est un petit peu extrême. Le premier sera probablement le premier ou le second seront probablement les cas les plus utilisés. Hein. Mmh. Effectivement, de répliquer du data center vers le data center et puis après d'aller vers une autre salle. À noter, c'est comment on parle ici d'un PRA, d'un plan d'emploi d'activité. Beaucoup de clients voyaient le réplica comme étant une sorte de cluster qui pourrait démarrer quand le premier tombait en panne. Mmh. Basiquement, ici, on est dans le cadre d'un PRA, donc un process qui implique à la fois de la technologie, des humains et puis des procédures derrière. Donc, effectivement, il va falloir faire le choix de dire on redémarre un environnement sur un socle de secours. On ne redémarre pas tout, mais le but, c'est de pallier à la panne de l'outil informatique. Et on ne veut surtout pas que ce type d'opération de bascule se déclenche de manière inopportune. Donc clairement, ce n'est pas automatisé, même si en tant que tel, rien n'empêche de faire derrière des scripts PowerShell ou faire de l'orchestration avec System Center Orchestrator pour pouvoir redémarrer une production comme ça. Dans les faits, effectivement, une fois qu'on aura bien qualifié quels sont les éléments qui sont importants à démarrer, il y aura probablement un ordre de démarrage. Je pense qu'on sait tous que première chose à démarrer quasiment dans un environnement.
Très bien, un RLDC,
le DHCP. Enfin, en gros, l'infrastructure. Mm-hmm. Et après, on redémarre effectivement la suite. Donc, l'idée, c'est que au-delà de simplement des scripts, etc., pour ceux qui ont vraiment des environnements un petit peu complexes à redémarrer avec un certain ordre de lancement, etc., on propose dans Windows Azure, en fait, un service qui est baptisé Hyper-V Recovery Manager, qui est ni plus ni moins qu'une sorte de service d'orchestration entre deux data centers, qui va permettre en fait de dire redémarre cet ensemble de machines virtuelles sur le data center de secours parce qu'il y a un problème X, Y ou Z. Mais là encore, c'est une opération qui sera déclenchée par un humain. Et effectivement, après derrière, ça déclenchera de manière automatique le redémarrage séquentiel dans le bon ordre, etc. des différentes machines virtuelles.
Intéressant. Alors on va rediscuter de tout ça tout à l'heure. Je te propose là, c'est qu'on commence déjà par regarder ces nouveautés dans l'interface.
Oui.
Alors on a un petit environnement de démonstration ici pour regarder au réplica. J'ai simplement trois hyperviseurs qui sont alignés sur le même LAN. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que tu as une VM qui est en train de tourner à l'heure actuelle, et puis je vais activer une réplication entre eux. Alors, première chose à faire, déjà, je vais activer le réplica. Donc, dans la configuration de mes hyperviseurs, je me suis bien assuré que j'avais effectivement les différents réplicas qui étaient activés, les différentes méthodes d'authentification. Et puis, j'ai activé le stockage de mes réplicas, ici, à un seul environnement, à un seul endroit, mais je peux définir ici un environnement de destination spécifique. Donc je peux dire que tel groupe de réplicas sera stocké directement dans tel et tel disque, histoire d'isoler un petit peu les différents locataires de ma plateforme de virtualisation. Donc là, je prends une machine virtuelle, j'active la réplication. Il me demande vers quel hyperviseur est-ce que tu veux répliquer cette machine. Je lui spécifie ici la machine numéro 6. On va s'authentifier en utilisant HTTP et puis on va compresser la donnée avant de la transmettre sur le câble. Et une fois que j'ai fait ça, il va nous dire quels sont les disques que tu veux répliquer en face. Donc là, j'en ai qu'un seul, donc il n'y a pas, de débat à avoir sur la topologie. Et j'arrive sur cette partie qui est fondamentale, qui est la nouveauté visible, qui nous permet de dire, soit je prends effectivement un intervalle de 30 secondes, de 5 minutes, comme c'était le cas par défaut, comme c'était le cas sur 2012, ou de 15 minutes, ce qui est une nouvelle valeur dans cet environnement. Donc on va prendre 15 minutes ici, et puis on va continuer notre assistant. Donc après, il n'y a pas de nouveauté, on est dans le même mode de fonctionnement. On nous demande de choisir est-ce qu'on veut consolider les points de recovery, comment est-ce qu'on veut transmettre la donnée initiale. Donc là, on voit que j'ai 30 gigas à transmettre sur le câble. Et puis, est-ce que je transmets l'information sur le câble dès maintenant? Hop là. Ou est-ce que je le transmets depuis un média externe? Donc là, je prépare en gros un disque dur avec ma machine, ou j'utilise une VM qui était déjà présente précédemment dans l'environnement.
Dernier cas étant utilisé quand on fait le failover, quand on revient sur l'environnement de production après un plan de PRA.
Exactement. Donc là, j'active ma réplication, pas de souci. On a la réplication initiale qui se fait sur le câble, et puis là, tu vois que j'ai mes autres réplications qui sont en cours.
Donc l'application se fait sur du protocole standard HTTP quand on est sur du LAN. Mm-hmm. Et quand on passe vers un fournisseur extérieur, on sera sur du HTTPS parce qu'on va passer par forcément un média non sécurisé et public qui est Internet.
Exactement. Donc là, c'est la première nouveauté que je voulais te montrer.
Donc là, t'as fait site A vers site B en gros.
Voilà, site A, site B en utilisant un intervalle de 15 minutes parce qu'il n'y a pas de d'impératif à avoir un temps court. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller maintenant sur la machine numéro 6 dont on discutait tout à l'heure. Et puis tu vois que là-dessus, j'ai un certain nombre de réplicas qui sont en train de tourner, dont celui que je viens de faire. Tu vois que là, on a la réplication qui se fait. Ce que je vais faire, appliquer le fameux principe informatique du ceinture et bretelle.
Donc, tu vas créer un réplica du réplica.
Exactement. Donc là, on va prendre, qu'est-ce qu'on pourrait prendre cette machine APPV01, réplication. Donc là, on a une option qui s'appelle Extend Replication, et c'est celle-là qu'on va utiliser en fait quand on va faire cette réplica secondaire.
Donc réplica du site B vers le site C.
Exactement. Donc, c'est parti. Extend Replication. Et puis, ça ressemble quand même pas mal à l'assistant d'avant. Là, il va dire vers quelle machine est-ce que tu veux répliquer cette machine virtuelle. Même chose, choisis ton protocole d'authentification et ton protocole de transport. On valide. Quel est l'intervalle de réplication que tu veux? Alors là, c'est intéressant, il ne nous donne que 15 minutes. Pourquoi est-ce qu'il ne nous donne que 15 minutes, Stanislas?
Probablement parce que dans le premier réplica que tu as fait de A vers B, tu avais mis 15 minutes. Donc c'est ridicule de répliquer toutes les 5 minutes une chose qui de toute façon arrive et est mise à jour toutes les 15 minutes.
Exactement, tu as deviné tout à fait correctement. Donc là, tous les 15 minutes, on valide, on peut choisir de consolider les points de recovery ou pas, on peut choisir de transmettre ça sur le câble, c'est exactement les mêmes options que précédemment. On envoie, et puis là, la machine va être répliquée sur l'autre en face.
Et donc là, on est en train de faire l'application de B vers C.
Exactement. Donc si on regarde un peu dans la machine d'en face, elle a déjà un certain nombre de réplicas qui existent déjà, et on peut le voir d'ailleurs dans son état de réplication. Tu vois l'état de la réplication étendue ici. Donc tu vois que c'est la réplication primaire. Et tu vois que ici, ça se discute entre un HyperArno 5 et HyperArno 6. Alors on va aller voir sur HyperArno 6 maintenant. Et puis on va aller voir ce DC03. Et là, dans les propriétés de la réplication, on va voir que c'est un petit peu plus étoffé. Donc voilà, on a activé un réplica sur un premier hyperviseur et un réplica secondaire à partir de ce deuxième hyperviseur. Donc on a bien une VM qui est exécutée et qui est copiée à deux endroits.
Répliquée à deux endroits, tout à fait. Pour ceux qui veulent voir en une seule vue, l'état de santé de la réplication et de la réplication étendue, il faut venir se positionner sur la machine, le réplica qui est sur le site B, mm-hmm. c'est-à-dire celle qui reçoit le premier réplica et qui est l'origine du deuxième réplica. Et là, si on regarde les propriétés de la VM, à ce moment-là, on verra les deux onglets avec le Replication Health et le Extended Replication Health.
Voilà, également Operation Manager te montrera ça de manière tout à fait correcte. Hein.
Tout à fait. Virtual Machine Manager également montre les réplicas, mais ne me permet pas de les configurer aujourd'hui même dans la version R2. Donc la configuration se fera toujours soit dans l'interface graphique d'Hyper-V tel que tu nous l'as montré, soit au travers de commandes PowerShell qui correspondent à peu près à ce que tu as fait graphiquement.
Absolument.
Alors, question récurrente sur Hyper-V Replica. Alors ces questions récurrentes, Arnaud, on nous les pose de manière très très fréquente, pas tous les jours, mais presque. Dès qu'on parle de Hyper-V Replica avec des clients qui commencent à découvrir la technologie, la première chose qu'on demande, c'est ouais, mais quel est l'impact de la réplication sur le CPU et la mémoire? Parce qu'effectivement, du coup, s'il y a de la compression, il y a un traitement qui va être fait au niveau des processeurs, on s'en doute. Quels sont les prérequis en termes d'espace disque, sachant qu'effectivement, on peut répliquer à T moins 5, 30 ou 15 minutes. Mais qu'on peut également avoir des états complémentaires toutes les heures, voire avoir des VSS snapshots. Donc en gros, plus on veut pouvoir faire des retours arrière possibles, plus ça va consommer de l'espace sur la destination. Quels sont les impacts en termes de performance sur le stockage? Faire de l'hyper-V replica, ça veut dire qu'à la source, on va avoir une double écriture sur le disque, une écriture dans le VHD en tant que tel, et une écriture à côté sous la forme d'un fichier HRL qui sera en gros du log, qui sera ensuite envoyé régulièrement au travers du tuyau vers le replica en face. Dernier point. Et c'est probablement là où viennent toujours les questions, la bande passante réseau nécessaire, la largeur du tuyau, basiquement. Combien il me faut pour pouvoir répliquer de site numéro 1 vers le site numéro 2?
Alors là, la réponse la plus précise qu'on ait trouvée à fournir jusqu'à présent à nos clients, c'est ben, ça dépend.
Ouais. Ce qui n'est pas une réponse qu'on pourrait qualifier de consultant. Pourtant, c'est la réponse la plus honnête et pragmatique qu'on puisse faire.
Bah, tu te doutes bien qu'entre le serveur SQL qui est en train d'écrire à fond les manettes sur le disque des informations et puis le pauvre serveur web qui fait rien d'autre que de servir du contenu statique, par exemple, il n'y a clairement pas le même nombre de choses à écrire, donc pas forcément, clairement pas le nombre de mêmes choses à transmettre sur le câble.
Et là tu parles juste de deux VM différentes, mais on peut même imaginer que la machine virtuelle SQL Server, avec toutes ses entrées, écritures et modifications de la base, peut générer plus de changements que peut-être 10 machines virtuelles qui, à côté, ne font pas grand-chose. Donc du coup, il n'y a pas de magie. On peut pas, si quelqu'un vous dimensionne le tuyau à la volée, comme ça, en répondant immédiatement à la question, on peut en déduire deux choses.
Hein. Ça peut être une bonne manière de discriminer un bon consultant d'un mauvais consultant.
Exactement. Ou un escroc d'une personne.
D'un incompétent. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser donc pragmatiquement comme outillage pour planifier tout ça de manière correcte?
Bah écoute, on a un capacity planner pour Hyper-V Replica qui existe, qui est valable à la fois pour Windows Server 2012, mais également pour Windows Server 2012 R2 pour la Replica. Donc c'est un petit outil que vous pouvez télécharger ici via cette URL, ak.ms/hypervreplica-sizing. Et en gros, ça va vous permettre de dimensionner votre stockage à destination, le compute qui est nécessaire derrière, le processeur, et puis bah, la taille du tuyau.
Alors cet outil-là, il va s'alimenter de chiffres globalement qu'on va, pareil, pas inventer. Hein. Ce seront les chiffres qu'on a vus tout à l'heure dans le Replication Health qui vont nous dire qu'est-ce qu'on transmet sur le câble.
Effectivement, tous les jours, tous les 24 heures, vous avez des données qui sont... Enfin, vous avez la mesure de ce qui a été envoyé par le tuyau, donc une mesure qui est faite heure par heure et puis la mesure globale de la donnée. Donc l'idée, c'est dans un premier temps, vous qualifiez les machines qui vous intéressent dans votre PRA. Vous créez sur votre LAN à côté un autre hyperviseur qui va avoir le rôle de réplica, mais là, ce sera pour la mesure cette fois-ci. Vous créez vos machines réplica et vous regardez pendant une semaine, en gros, en fonction d'activité, combien ça prend d'espace. Donc on sait que sur le LAN, on n'aura pas d'engagement au niveau du tuyau. C'est souvent, en général, cette problématique-là qui pose souci pour le WAN. Et puis, ben, à partir de là, vous avez tous les chiffres, vous les mettez dans la calculatrice, et puis ça va vous cracher derrière le bon dimensionnement, basiquement.
Parfait. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur l'automatisation, justement, de tous ces process?
On en a parlé tout à l'heure, hein, l'Hyper-V Recovery Manager Service. Peut-être à préciser derrière que ça ne supplée, enfin, ce n'est pas une réplication à destination de Windows Azure.
Oui, absolument pas.
Souvent, des gens confondent le nom du service en se disant Windows Azure fournit l'équivalent pour faire un réplica de VM dans Windows Azure. Ce n'est pas le cas.
Ce n'est pas le cas du tout. Il permet de se connecter et d'organiser, d'orchestrer le redémarrage sur un site secondaire. Donc, il va se baser sur vos infrastructures que vous avez, sur votre System Center dans le data center principal et secondaire. Et il va en fait orchestrer tout ça, on va dire.
Exactement. Et donc, le réplica, le trafic en HTTPS ou en HTTP de la réplication des machines virtuelles à destination du site secondaire, reste en fait sous votre maîtrise et ne passe absolument pas par notre data center.
Bien, merci Stanislas pour l'introduction de ces nouveautés, ces petits conseils.
À bientôt.